Savez-vous que la France n'est qu'à la 110e place sur 149 pays dans le monde pour l'activité physique? Et vous allez voir à quel point c'est catastrophique pour les adultes que nous sommes, mais aussi pour nos enfants. C'est ce que va nous expliquer François Carré dans cet épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition et la plus naturelle possible. Mais, nous allons aussi vers d'autres sujets parce que nous partons à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive et aussi, aujourd'hui, d'un médecin dont la spécialité n'est pas la nutrition, mais le cœur et l'activité physique. Car aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai la chance d'échanger avec François Carré, cardiologue et médecin du sport, professeur en physiologie cardiovasculaire à l'université de Rennes 1, triathlète, trailer, plusieurs marathons des sables à son actif, 1 minute 54 au 800 mètres et moins d'1h20 sur semi-marathon. Mais finalement, nous n'avons pas parlé que de course à pied, car ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est sa connaissance incroyable du corps et le lien entre le sport, la santé, l'immunité, le vieillissement, et comment aussi l'alimentation, bien sûr, va venir améliorer tout ça. Dans son activité clinique quotidienne, il explore les adaptations à l'exercice de sujets sains et malades pour leur consigner une activité physique individualisée et sécurisée. Il est aussi un expert reconnu, écouté de nombreuses personnes, et récemment encore par les sénateurs, dans lequel il leur expliquait le rôle du sport et de l'activité physique par rapport à l'immunité. Dans cet épisode, nous avons échangé sur ce fameux rôle du sport dans nos vies, son impact sur l'immunité face à la maladie, face au virus, son rôle dans notre santé, dans le fonctionnement de notre cerveau, des problèmes que pose la sédentarité pour nous, mais aussi pour nos enfants. Et on a aussi débattu de quelques croyances. Trop de sport est-il mauvais pour la santé? Marcher ou courir est-il suffisant dans sa journée, surtout quand on est assis 10 heures par jour sur une chaise? Et est-ce que je peux encore progresser si je commence tardivement le sport? Et puis, il va nous parler de désir et de plaisir. Bien entendu, si vous voulez en savoir plus sur notre invité, je vous encourage à regarder les notes de l'épisode pour suivre tous les liens et aller consulter le site du podcast happyrun.fr/podcast ainsi que le compte Instagram @podcastsportnutrition sur lequel nous publions des compléments et la recette de nos invités. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec François Carré. Bonjour François Carré.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Écoutez, je vais bien, il fait beau en Bretagne donc je ne peux qu'aller bien.
Ah, il fait beau en Bretagne. Alors, je vous avoue que chez moi en Auvergne, il fait pas beau du tout. Qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu aller courir, que je suis un petit peu chafouin parce que je n'ai pas pu bouger et que ça tombe bien parce que c'est justement de ça qu'on va parler, des bienfaits de l'activité physique pour le corps, pour l'esprit, pour l'immunité. Quels sont tous les bienfaits finalement de l'activité physique?
Oh, tous les bienfaits, c'est difficile à dire. Déjà, je dirais que globalement, ça nous permet d'avoir une meilleure qualité de vie. C'est-à-dire que ça me permet d'avoir la possibilité de faire plein de choses dans la vie naturelle, d'avoir aussi une espérance de vie un petit peu plus longue quand on fait de l'activité physique que quand on n'en fait pas. Et moi, quand je parle d'espérance de vie, je ne parle que d'espérance de vie en bonne santé, parce que l'espérance de vie dans un fauteuil roulant, ce n'est pas ce à quoi j'aspire. Or, les médicaments, et je suis cardiologue, donc j'en prescris régulièrement. Eh bien, c'est surtout ça que ça nous donne. Hein. Quand vous entendez les médias vous parler du prolongement de l'espérance de vie, c'est plus l'espérance de vie dans le fauteuil roulant qu'en bonne santé.
Oui. Alors, moi, je vous avoue que la première fois que j'ai entendu parler de vous, j'ai vraiment tilté, c'est sur une intervention que vous avez faite au Sénat. Commission des affaires sociales. Sur l'immunité et l'activité physique. Et alors, l'immunité, on en parle beaucoup, mais j'ai l'impression que la partie activité physique, en ce moment, on en parle quand même beaucoup moins.
Oui, c'est ma grande déception de me rendre compte qu'il y a quand même un comité sanitaire qui donne des conseils au gouvernement sur l'attitude à avoir pour la meilleure santé des personnes. Et dans ce comité, il y a essentiellement des médecins. Et j'ai été très surpris quand même que parmi ces médecins, il n'y en ait pas un qui ait insisté sur le bénéfice que peut apporter l'activité physique. En effet, aujourd'hui, on sait très bien que l'activité physique est le moyen sûrement le plus efficace et le plus simple pour améliorer l'immunité, même si l'alimentation peut avoir un effet. Mais on l'oublie, alors qu'il suffit simplement d'aller regarder un tout petit peu en arrière. Quand il y a eu la fameuse grippe espagnole il y a quelques années, on avait eu des publications nous disant que les sportifs avaient moins de décès que les non-sportifs, que quand on fait un vaccin à un sportif et qu'on regarde le nombre d'anticorps qu'il libère, ben il en libère plus que le non-sportif, plus toutes les toutes les autres données que l'on a, très simples. Et en plus, aujourd'hui, on a des explications. En fait, si vous voulez, en façon très simple, on a une courbe en U entre activité physique, si je mets en bas, en abscisse, le trait d'en bas, le niveau d'activité physique, et en haut, le nombre d'infections des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire les rhinopharyngites, les rhumes, ces petits maux de gorge qu'on a tous qui nous gâchent la vie de temps en temps. Eh bien, quand vous avez quelqu'un qui ne bouge pas du tout, c'est lui qui a le plus de risque d'avoir ces petits tracas et qui attrape le premier microbe qui passe. Et puis, vous avez ensuite une diminution au fur et à mesure que l'activité physique augmente, puis ensuite une petite remontée que l'on voit surtout chez les gens qui font énormément de sport, c'est-à-dire ce qu'on appelle les sportifs de très haut niveau de performance, surtout quand ceux-ci sont au pic de leur forme. C'est-à-dire donc que l'activité physique régulière, modérée, celle que l'on recommande à tout le monde, améliore l'immunité et que possiblement, quand on va atteindre des taux, des quantités d'activité physique trop importantes, on puisse tomber dans l'inverse, et ce qui fait que ça fait confirmer l'adage que l'excès n'est bon en rien, l'excès de sédentarité n'est pas bon, et bien sûr, l'excès de pratique sportive peut être délétère.
Alors là, vous avez plaire à mon médecin quand je lui ai dit que je voulais courir un marathon, je voulais faire certaines courses, il me dit « Ouh là là, c'est bien de courir, mais n'en faites pas trop ».
Oui, c'est vrai. Mais moi, ce dont je vous parle, n'en faites pas trop, ce sont des gens qui tournent plutôt entre 28 à 32 heures de sport par semaine. C'est-à-dire, c'est les grands champions, les plus grands cyclistes, les triathlètes, les skieurs de fond, toutes ces personnes qui, pour performer à un très haut niveau, n'ont pas de choix d'en s'entraîner beaucoup, énormément. Donc, c'est pour ça qu'on se trouve dans ce contexte-là. Et malheureusement, ce qui est dommage, c'est que tout le monde ne retient que ces sportifs-là et non pas monsieur ou madame tout le monde qui vont faire une activité physique pour son bien-être, pour garder sa bonne santé. Et il n'a jamais été question, bien sûr, surtout dans la période sanitaire que l'on traverse, de parler des gens qui font peut-être trop de sport, mais de parler de simplement de faire du sport. Et ce qui est dommage, c'est qu'en plus, on sait très bien comment ça marche et il n'y a aucun doute là-dessus. Et je n'ai jamais entendu ce mot-là, à part d'un un ou deux discours, n'oubliez pas de faire de l'activité physique. Mais ça, ce n'est pas comme ça qu'il faut dire les choses. Je pense qu'il faut dire, vous devez faire de l'activité physique parce que ça fait partie de votre santé, c'est ça qui va l'entretenir. Et prenons un exemple très simple. On a malheureusement eu deux études qui sont sorties récemment sur le Covid. Une qui a montré que quand si vous prenez dans une grande population de 40 000 personnes qui ont été hospitalisées pour Covid, ceux qui ont eu le plus de décès sont ceux qui faisaient le moins d'activité physique. 2,4% de décès dans ce groupe, alors que ceux qui faisaient 150 minutes d'activité physique. 150 minutes, vous voyez, ça fait 30 minutes 5 fois par semaine. Donc, ouais, c'est quand même pas une activité physique terrible. Eh bien, chez eux, il y avait 0,4%, donc 2,4% chez ceux qui ne bougent pas, contre 0,4% chez ceux qui font de décès, chez ceux qui font 150 minutes d'activité physique. Donc, ça n'a fait que confirmer ce qu'on disait. Et la deuxième étude, eh bien, ça a été de mesurer, de regarder la capacité physique des gens hospitalisés. Donc, comment ils ont fait? C'est une étude américaine de la Mayo Clinic où ils avaient des malades qui suivaient avant, et il y en a parmi ceux-ci qui ont été hospitalisés pour le Covid. Et donc, ces malades-là, on connaissait leur capacité physique avant qu'ils aient le Covid. Et quand ils ont été hospitalisés, eh bien, les malades qui avaient les Covid les plus graves ou qui sont décédés sont ceux qui avaient la capacité physique la plus faible. Or, le meilleur moyen d'avoir une bonne capacité physique, c'est encore de bouger et de faire de l'activité physique. Donc, on a la preuve formelle, en fait, qu'aujourd'hui, dans cette période que nous traversons, ce sont les gens qui avaient la moins bonne capacité physique, donc la moins bonne santé, qui étaient les plus fragiles. Et on retombe sur ce qui était dit dans les médias, hein, les gens avec les comorbidités, avec le surpoids, etc. Mais tout ça, ce qu'on oublie toujours, c'est que ça se relie à notre santé et à notre niveau, notre quantité d'activité physique qu'on fait.
Alors, ce qu'on va essayer quand même de préciser, c'est quoi l'activité physique qu'il faudrait, qu'on va considérer? C'est quoi? C'est qu'il faut marcher ou prendre sa voiture? C'est pas forcément que de la course, je veux dire.
Non, tout à fait. Alors, aujourd'hui, vous avez entièrement raison de préciser ça. On en est au point où il faut expliquer aux gens ce que c'est que l'activité physique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Oui. Il y a quelques années, on ne se posait pas la question. Quand je pense que moi qui me bats beaucoup vis-à-vis des enfants, que vous entendez les professeurs de gymnastique nous me dire ça, tu sais, François, moi, sur 5 élèves en 6e, j'en ai 3 qui ne font pas 4 cloche-pieds sur le même pied. Donc là, ce n'est même pas de l'activité physique, c'est de la motricité. Donc, c'est beaucoup plus grave. Donc, ça veut dire qu'il faut réexpliquer, vous avez entièrement raison, ce que c'est. Alors, nous, ce qu'on appelle activité physique, chaque fois que vous contractez un muscle, eh bien, vous faites une activité physique. C'est simple.
D'accord.
Hein? Donc, dès que vous dépassez, en fin de compte, la quantité d'oxygène que vous consommez pour vivre, parce que pour vivre, on consomme de l'oxygène, là, vous êtes assis, vous consommez à peu près 3,5 millilitres d'oxygène par minute par kilo, eh bien, dès que vous dépassez ces 3,5, vous faites de l'activité physique. On considère qu'elle est significative quand vous dépassez à peu près 4 millilitres d'oxygène, peu importe. Dès que vous bougez, en fin de compte, vous faites de l'activité physique. Après, ce qui a été montré, c'est que le mieux, c'est de faire au moins 30 minutes d'activité physique chaque jour d'intensité modérée. Qu'est-ce qu'on appelle activité physique d'intensité modérée ? C'est quand je suis un peu essoufflé, à peu près quand vous faites votre footing. Vous êtes essoufflé, mais vous pouvez courir comme ça pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et s'il y a quelqu'un à côté de vous, vous pouvez bavarder avec lui, pas comme on parle maintenant, mais pratiquement. Ça, c'est l'activité physique modérée. Après, j'ai l'activité physique intense au-dessus et puis l'activité physique faible en dessous. Donc, ça veut dire que, pour donner des exemples, quand je marche, comme quand je visite un musée ou comme quand je fais du shopping, ça, ce n'est pas de l'activité physique modérée. Donc, ce n'est pas mauvais pour ma santé, mais ça ne m'apporte pas grand-chose. Ce qui m'apporte plus, c'est quand je marche et je me rends compte que je suis un peu à la bourre pour arriver à l'heure à mon rendez-vous et que j'ai besoin d'accélérer le pas.
D'accord.
Ça, c'est 30 minutes, ça peut être 3 fois 10 minutes par jour.
Donc, si je suis tout le temps en retard et que je me dépêche tout le temps et que j'y vais à pied au lieu d'aller en voiture ?
Eh bien, exactement, vous avez tout compris. Moi, si je prends mon modeste exemple, je fais exprès tous les matins de me garer un peu plus loin de mon hôpital, c'est-à-dire que je me gare en minimum entre 800 mètres et 1 km. Comme ça, je suis sûr que dans ma journée, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, j'ai fait mes 1600 mètres ou mes 2 km. Effectivement, quand il fait très froid et qu'il neige le soir et que je sors du boulot, je me dis quelle idée t'as eu de te garer si loin, mais c'est pas grave. Je me dis, t'inquiète pas, mon grand, c'est pour ta santé, t'as bien fait. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose en fait ce qu'on demande. Par contre, il faut faire attention aux personnes qui nous écoutent. La personne qui ne fait que 10 minutes par jour, c'est mieux que zéro.
Oui.
Aujourd'hui, un pas, c'est mieux que rien. Donc, il ne faut pas non plus se flageller sous prétexte qu'on ne fait pas les 30 minutes ou surtout, comme je l'entends très souvent, « Ah, mais docteur, vous savez, je ne peux pas faire 30 minutes par jour, donc je ne fais rien. » Non, je leur dis « Faites 10 minutes. » Tant pis, votre emploi du temps ne vous le permet pas, c'est dommage. Je me rappelle que Barack Obama arrivait à faire quand même pratiquement 5 fois par semaine 30 minutes de basket malgré son emploi du temps de président des États-Unis. Donc, je pense que la plupart d'entre nous, on peut trouver 3 fois 10 minutes dans la journée pour faire ce qui entretient ma santé.
C'est fou quand même hein, d'avoir ces discussions, de se dire qu'on est tellement devenu sédentaire. Et j'avais une discussion l'autre jour sur les voitures, la place que prend la voiture dans nos vies, qu'il faut se rappeler quand même de ce que c'est que de bouger.
Oui, on est forcé de se dire « je dois bouger », vous vous rendez compte ? Enfin, certains sont forcés de se le dire et c'est un petit peu dommage, mais comme vous le dites, c'est assez extraordinaire de penser qu'il faut réexpliquer tout ça. Alors, il y a un autre mot là qui vous avez dit qui m'intéresse beaucoup parce que sédentarité, ce n'est pas l'inactivité physique. Hein, l'inactivité physique, c'est quand je ne bouge pas. La sédentarité, c'est quand je suis trop longtemps assis. C'est-à-dire que je peux être sédentaire et quand même actif sur mon fauteuil quand je pianote sur mon écran comme on le fait tous. Hein. Et on sait depuis à peu près une dizaine d'années que les risques de l'inactivité physique et de la sédentarité sont indépendants l'un de l'autre, mais se multiplient. C'est-à-dire, si je suis inactif sédentaire, là, j'ai le pompon, j'ai le risque d'attraper toutes les maladies. Par contre, je peux être sportif sédentaire. Je peux faire 5 heures de sport par semaine et être assis 10 heures par jour devant mon écran. Et je suis donc quelqu'un sportif sédentaire. Et je crois que j'ai tout bon et en fait, non. Le tout bon, c'est je marche mes 30 minutes chaque jour où je fais mes 30 minutes de vélo si je veux chaque jour, je me déplace de façon active 30 minutes par jour, et en plus, 1, 2, 3 fois par semaine, je fais une activité sportive ou plus intense. Ça, c'est le top pour ma santé.
D'accord, parce que c'est ce qui mixe finalement les différentes intensités entre voilà. Du mouvement, du sport, etc.
Et en plus, quand j'associe le cardio et le renforcement musculaire, là, j'ai tout bon. Rien de savant, le renforcement musculaire, c'est monter ou descendre des escaliers. Et ça, c'est du renforcement musculaire. Donc, en d'autres termes, quand je vois 2 étages, je ne prends jamais l'ascenseur. Je me gare un petit peu plus loin, je marche et j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour ma santé.
D'accord. Et donc, sans avoir besoin d'aller faire des marathons des sables, etc., comme vous en faites.
Ça, c'est pas du tout indispensable. Ça, c'est pour le fun. Ça n'a rien à voir.
Oh, parce qu'on va se dire, bon, là, c'est. Parce que finalement, là, j'attaque sur l'inactivité, la sédentarité, etc. Mais la plupart des gens qui nous écoutent sont quand même assez sportifs. Mais c'est vrai qu'ils ont dans leur entourage des gens qui sont pas trop sportifs ou des fois qui bougent pas, ils ont un petit peu de mal à les convaincre. Donc là, on leur a donné des arguments aussi pour sur là-dessus. Et puis, on peut avoir des gens qui ont pu entendre les discours de dire, oui, mais attention, si tu fais trop de sport. C'est pas bon, tu vas t'épuiser, tu vas te fatiguer, tu vas être sensible au virus, etc. Alors là, vous nous donnez un super bon argument de dire que si on n'en fait pas 28 ou 30 heures, bon, bah, finalement, on est quand même assez tranquille.
Oui, absolument. De toute façon, c'est ce que je dis toujours à mes patients ou à mes pas patients, ou pas encore patients, si je peux dire, parce que ceux qui ne bougent pas, ils seront mes patients un jour. Eh bien, c'est de leur dire que on n'est pas là pour les transformer en champions olympiques, on est là simplement pour leur redonner quelque chose qui fait partie de notre vie. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu, mais il faut comprendre que de toute façon, nous n'avons pas le choix parce que génétiquement, on est programmé pour bouger. Donc, on n'a pas le choix. En fait, ceux qui pensent qu'ils peuvent y échapper, ils ont tort. Alors, il y a toujours des exceptions, vous savez bien, on raisonne toujours sur des populations. Mais vous avez raison, on n'est pas là pour devenir tous des champions. Chacun fait en fonction de ce qu'il aime. Et puis, c'est ce qu'on disait un petit peu, vous savez, hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais tout est poison, rien n'est poison, tout dépend de la dose. Donc, en fait, c'est exactement ça. Par contre, entre rien et faire 20 heures, après, les gens qui veulent faire 20 heures de sport, c'est que ça fait partie de leur plaisir, comme le musicien qui va s'entraîner 4 heures par jour, 5 heures par jour, pour moi, ou le peintre, ou le lecteur, j'ai pas du tout de jugement, mais je garde toujours dans ma tête l'idée que je dois tout associer pour pouvoir avoir ce dont on parlait en introduction, le plus longtemps une vie en bonne santé, c'est-à-dire une vie qui me permette de faire ce que j'ai envie de faire, quel que soit l'âge. Alors oui, sur ce que vous disiez, puisque vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui nous écoutaient qui étaient sportifs, ils doivent savoir ce que c'est que la consommation maximale d'oxygène. C'est un mot qui est. Vous voyez, on considère que l'idéal, c'est de garder toute sa vie, quand on est un homme, à peu près une consommation maximale d'oxygène de 25 millilitres par minute par kilo. Et quand on est une femme, c'est plutôt aux alentours de 20-21. Hein, les femmes ont une espérance de vie, même au même niveau de capacité physique, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Il y a donc un autre facteur que la capacité physique qui intervient dessus, qu'on ne connaît pas bien, qu'on n'explique pas très bien encore aujourd'hui. Et donc, vous voyez, c'est pas quelque chose. Donc, en gros, 25, ça me permet de courir à 8 km/h pendant 5 minutes. Hein, c'est une VO2 max pour courir parce que je la maintiens à 5 minutes. Donc, c'est 8 km/h. Et la femme, c'est à peu près. Qu'est-ce que je vous dis? 3,5, 3 fois 6, 18. Oui, ça fait 6, entre 6 et 7. Donc, ce n'est pas des champions du tout. Et si vous arrivez à maintenir le plus longtemps possible ces chiffres-là, eh bien, vous arriverez à faire à peu près tout ce que vous avez envie de faire le plus longtemps possible dans la vie de tous les jours. Faire vos courses, monter 2 étages sans vous arrêter. Si vous êtes grand-père, aller marcher ou trottiner avec vos petits-enfants. Enfin, vous voyez, des choses simples en réalité.
Oui, parce que j'étais en train de tilter là-dessus, sur cette histoire finalement de vitesse qui est pas si élevée que ça. C'est-à-dire que pour des personnes qui à la retraite, etc., même l'intensité potentielle, elle est quand même encore maintenable assez longtemps.
Oui, absolument. Et l'autre message, ce que vous dites est tout à fait vrai. Et l'autre message qui est très important, c'est que, comment dire, à tout âge, je peux progresser. En fin de compte, le message qui peut faire peur aux gens, c'est de se dire, bon, ça fait 30 ans que je fais rien, je ne vais pas m'y mettre maintenant, je suis foutu. Pas du tout. À 30 ans, je peux changer mon mode de vie et je vais rattraper mon retard par rapport aux autres personnes de 30 ans. Je vais pas revenir comme si en arrière, si vous voulez, je vais pas meilleur que. Alors, je pourrais être meilleur quand j'avais 20 ans, si jamais je bougeais pas du tout quand j'avais 20 ans. Mais même à 85 ans, moi, j'ai des exemples de personnes à qui on a demandé, j'ai conseillé de remarcher 10 minutes par jour, puis chaque jour, de prendre l'habitude de se lever 10 fois de leur chaise et de s'asseoir de leur chaise sans céder en s'appuyant s'ils pouvaient, 10 fois le matin, 10 fois le soir, renforcement musculaire, marcher 10 minutes cardio, et qui retournaient faire leurs courses, retrouvaient leurs copains pour aller bavarder et avaient repris une vie sociale. Alors que autrement, malheureusement, ce que je vais dire est très triste, mais c'est la vraie vie. Je suis âgé, je ne sors plus de chez moi, je me mets dans mon fauteuil, ça dure 3 mois, 3 mois après, je vais dans mon lit, 3 mois après, je suis mort. Voilà. C'est comme ça. C'est ce qui se passe dans les EHPAD. Dès que vous avez une personne âgée qui arrête de marcher, à peu près dans les 6 mois qui suivent, voilà un très fort risque de décéder. C'est pour ça que je me bats pour que dans les EHPAD, il y ait des enseignants d'activité physique adaptée. On donne un déambulateur aux personnes ou deux cannes aux personnes qui ont du mal à marcher, mais il faut qu'elles continuent à marcher le plus longtemps possible.
Alors là, on est parti sur les personnes âgées, mais sur l'article que j'avais trouvé sur votre intervention au Sénat, j'avais vu que vous disiez notamment chez les enfants que l'activité physique aider aussi à mieux écrire, lire, compter, mieux apprendre.
Oui, tout simplement parce que, alors pour expliquer ça, si vous voulez, on va revenir un petit peu à ce dont je vous parlais tout à l'heure dans le patrimoine génétique. Donc quand je ne bouge pas et quand je suis sédentaire et que je ne fais pas d'activité physique, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais accumuler de la graisse. Alors comment ça se passe? Ben, c'est très simple. En fait, dans notre évolution, l'évolution de l'Homo sapiens, etc., eh bien, les anthropologues nous ont dit que le chasseur-cueilleur, vous savez, qui est toujours très fier, on le représente toujours très fier en train de marcher sa lance sur le dos, sur l'épaule, là, et il marchait 12 à 15 kilomètres. Ça, j'en sais rien, c'est ce que nous disent les anthropologues. Mais pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, l'Homo sapiens, il a, au niveau de ses gènes, sélectionné ce qui lui était indispensable. Il y en a deux groupes. Un, le groupe de gènes qui me permet de stocker. Stocker quoi? L'alimentation, donc la graisse. Pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas tous les jours. Donc, quand il ne pouvait pas manger pendant une semaine, eh bien, il fallait bien qu'il ait un stock. Et puis, deuxièmement, le groupe de gènes qui lui permettait de marcher très longtemps, parce qu'en fait, pour chasser à l'époque, c'était l'endurance. On sait bien que l'homme n'est pas l'animal le plus rapide sur 100 mètres, mais sur l'endurance, c'est le plus performant. Donc, il pouvait poursuivre des animaux pendant des heures et des heures, mais pour ça, il faut développer le patrimoine génétique. Or, nous, aujourd'hui, vous comme moi, on a le même patrimoine génétique que le chasseur-cueilleur, à très peu de différence près. C'est-à-dire que dès que je mange et que je ne bouge pas, je stocke toute la graisse. Par contre, je ne fais pas travailler mes gènes qui attendent que ça, puisque je ne les stimule pas, et donc je ne vais pas avoir le contrebalancier qu'avait le chasseur-cueilleur. Donc, pourquoi je vous dis ça? Ben, tout simplement pour répondre à votre question, parce que quand je ne bouge pas, qu'est-ce qui se passe? La graisse que j'accumule va libérer des substances qui sont des hormones. Ces hormones, on les appelle des cytokines. Ces cytokines vont augmenter mon niveau d'inflammation et mon niveau de stress oxydant. On connaît tous le stress oxydant. Tout le monde parle des bons aliments avec les antioxydants, les carottes, les tomates, etc. Eh bien, s'il y a des antioxydants qui sont bons pour la santé, ça veut dire que trop d'oxydants, ce n'est pas bon pour la santé. Eh bien, quand je ne bouge pas, j'augmente mon niveau de stress oxydant et mon niveau inflammatoire. Et c'est ça qui fait développer toutes les maladies. Toutes les maladies. Sachez que quand vous ne bougez pas, quand vous êtes trop assis, quand vous ne faites pas d'activité physique, si en plus vous avez la malbouffe associée, plus le tabac et une consommation trop importante d'alcool, vous avez la totale et vous favorisez le développement de toutes les maladies chroniques. Toutes. Mais pas en petit pourcentage. Vous augmentez votre risque d'environ 25 à 30%. Maintenant, je décide de bouger. À ce moment-là, je stimule mes muscles qui se contractent, dont on a parlé au tout début, qui consomment de l'oxygène, vont non seulement brûler des calories, ce que tout le monde sait, mais surtout libérer d'autres hormones, d'autres cytokines, qui vont bloquer les cytokines libérées par la graisse et surtout envoyer des tas d'hormones qui vont circuler dans tout l'organisme, dont certaines vont intervenir au niveau du cerveau. Et celles qui interviennent au niveau du cerveau font que vous allez mettre en route, quand vous bougez votre cerveau, vous allez l'éveiller. Et si vous apprenez quelque chose juste après, vous allez l'apprendre plus vite. Par exemple, vos enfants, vos petits-enfants, eh bien, quand ils vont à l'école, vous les faites courir 10 minutes avant d'entrer à l'école, ils vont apprendre plus vite une strophe de poésie que s'ils n'ont pas couru avant. Ça, c'est une étude qui l'a montré. Les mêmes gamins, vous les prenez le lundi, ils ne vont pas courir, ils mettent, je dis n'importe quoi, 6 minutes à prendre la strophe de 4 vers. Le lendemain, ils vont courir 10 minutes, on leur donne la strophe suivante, toujours de 4 vers, ils la prennent en 2 minutes. Tout simplement parce que vous avez éveillé votre cerveau, et ça, on le sait tous, vous comme moi, je suis sûr combien de fois on reste devant notre ordinateur, les yeux rivés, on lit 4 fois la même ligne, on ne comprend rien de ce qu'il y a d'écrit. Je me lève, je vais me laver les mains, je vais bouger, je monte 3 marches, je reviens, oh, je deviens intelligent, j'arrive à comprendre ce que l'ordinateur m'a écrit. Eh bien, ça, les gens n'y croient pas. Et les premiers à pas beaucoup y croire, malheureusement, c'est un petit peu ce que j'avais dit au Sénat, c'est l'éducation nationale. Puisque l'éducation nationale a du mal à accepter. Ça a un peu changé. En primaire, ils ont recommandé de faire 30 minutes d'activité physique le matin, comme vous avez dû le voir. Et il y a d'ailleurs des professeurs qui l'ont fait, mais eux, ils n'ont pas fait 30 minutes, ils ont fait 15 minutes le matin, 15 minutes l'après-midi. Et ils se sont rendus compte que leurs enfants de leur classe étaient d'abord plus calmes, ce qui n'est pas désagréable,
ouais.
Et puis ensuite étaient plus réceptifs à ce qu'on leur apprenait. Donc voilà, on voit à peu près, voyez, comment les choses marchent.
Oui, alors c'est super intéressant parce que là, d'un coup, j'ai les images des cultures au Japon, Asie, on les voit faire du sport, des mouvements le matin, etc. Ça veut dire que c'est des choses qu'on devrait intégrer, nous aussi, ça.
Mais absolument. Je reprends toujours les enfants. Pourquoi je prends les enfants? Parce que les enfants, c'est l'avenir. Hein? Et on ne se rend pas compte, on pourra reparler, si vous voulez, de la capacité physique des enfants maintenant, à quel niveau elle est comparée à ce qu'il y avait il y a 40 ans. Mais vous avez entièrement raison. Prenons le réveil et les premières heures du matin, enfin la première heure, on va dire, ou heure et demie, selon qu'on habite loin ou pas de l'école, de l'enfant, de même le collégien, sauf si jamais il a besoin d'aller prendre son bus en marchant. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Bon, réveille-toi, c'est l'heure. Allez, bon, et dépêche-toi parce qu'on est à la bourre, il faut que tu prennes ton petit déjeuner. Allez, fonce, cartable, manteau, voiture, toc, j'arrive devant l'école. J'ouvre ma porte, bien souvent en double file parce qu'il y a plein de parents qui font comme moi et que moi je suis en retard pour le travail. Le gamin descend, fait quatre pas, s'assied sur sa table. Et là, qu'est-ce que lui dit la professeure, la maîtresse? Bon, vous avez intérêt à être calme. Le pauvre, il n'est même pas réveillé. Je le réveille, je le fais marcher 10 minutes ou 5 minutes pour aller à l'école en arrivant. Il arrive, il est déjà éveillé. Son cerveau est éveillé, il est réveillé et à ce moment-là, il va pouvoir apprendre. C'est tellement évident et pourtant, ce message, on n'arrive pas à le faire passer auprès de la population parce qu'on est, comme vous l'avez dit en introduction, sans s'en rendre compte, complètement bouffé par l'inactivité physique et la sédentarité.
Oui, mais ce qui est incroyable, c'est que moi, je me rappelle quand j'étais, moi, j'ai 45 ans. Oui, je suis en train de faire mon calcul. Moi, j'allais tous les jours à l'école à pied. Je marchais 10 minutes, un quart d'heure à pied. J'ai même des souvenirs de ces trucs-là. Moi, j'habite entre deux écoles où je vois les voitures qui défilent en
Oui.
amenant les gamins, qui les déposent devant, qui les reprennent devant, etc. Je me dis que ce message-là, si les parents, ils aimeraient l'entendre. Enfin, c'est, il y a pas que l'éducation nationale, mais on est, même pour le bien des enfants, cette fameuse capacité physique, on peut y revenir, mais on se dit que finalement, on les prive d'activité physique, de bien apprendre, etc. Mais ça me semble dramatique, vu comme ça, là.
Ah, mais c'est dramatique, c'est dramatique. Regardez. Pas plus tard que ce matin, dans comment s'appelle le projet Héritage de Paris 2024, j'avais été sollicité pour rappeler un petit peu à des maires MAIRE de S de l'intérêt de la mobilité active dans les villes. Et c'était un petit peu ce que je leur disais. Je leur disais qu'effectivement, on ne se rend pas compte de la simplicité de la chose, c'est ce qu'on disait en introduction, il suffit de bouger un petit peu et on a besoin de l'expliquer aux parents et on n'arrive pas effectivement à faire passer ce message qui pour moi est simple et qui est dramatique. Il est dramatique tout simplement parce que, je vous l'ai dit, on me dit que les enfants en sixième n'ont même pas de motricité. La capacité physique des collégiens entre 71, 1971 et 2011 a baissé de 25%. En gros, le collégien de 1971 mettait 3 minutes pour faire un 600 mètres. Maintenant, il en met 4 quand il est capable de le faire. Quand il est capable de le faire. Pas longtemps, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu lors d'un exposé, après que j'ai fait un exposé, c'était une prof de gym de lycée technologique qui parlait après moi, lycée professionnel, et qui me disait, mais vous savez, monsieur Carré, en terminale, j'ai 50% de mes élèves qui ne vont pas passer le baccalauréat, le test classique qui est pour l'éducation physique, parce qu'ils ne sont pas capables physiquement. Donc je les mets en handicapés, alors qu'ils ne sont pas handicapés du tout. Et le test qu'on leur propose, tenez-vous bien, c'est quoi? C'est je marche 10 minutes, je me repose 5 minutes. Je marche 10 minutes, je me repose 5 minutes, et je remarche 10 minutes. Si je le fais, j'ai la moyenne. 18 ans. Et ça, l'éducation nationale le sait. Elle le voit, ce résultat. Elle les a. Je pense que l'éducation physique est la seule discipline. En fait, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a d'autres disciplines aussi où c'est comme ça, malheureusement. Mais où on diminue tellement les enfants sont mauvais, on est forcé de le laisser faire des performances de moins en moins bonnes pour qu'ils aient la moyenne. Au lieu de se dire, bon, ben, cette année, c'est la terminale, je peux préparer mes enfants physiquement, eh ben non, on diminue le niveau pour leur permettre d'avoir la moyenne. On est classé, oui, je vous disais ça parce que ce matin, je disais qu'on était classé. Alors, le chiffre exact, ça doit être 110e ou quelque chose comme ça, sur 149 au niveau activité physique dans le monde. Hein. Et quand vous prenez le dernier classement qu'il y a eu en Europe, sur les résultats scolaires, on était en Europe, je parle, avant-dernier devant Chypre. Donc, on n'est pas les meilleurs en activité physique, on n'est pas les meilleurs en résultats scolaires, et qu'on ne vienne pas me parler de l'éducation physique. L'éducation physique à l'école, quand on me dit qu'il y a 3 heures, un, c'est faux, parce que déjà, quand je prends tous les déplacements qu'il y a, on arrive au maximum à 1 heure et quart d'activité physique suffisante. Mais il ne faut pas tout remettre sur le dos sur l'éducation nationale. Les parents ont aussi leurs responsabilités. Hein. Les parents, s'y montraient l'exemple, je pense qu'aujourd'hui, leurs enfants bougeraient plus. Vous l'avez dit, ils les déposent en voiture devant l'école. Ils pourraient se garer à 500 mètres de l'école et marcher avec eux. D'ailleurs, les enfants s'en souviennent très bien parce qu'ils s'en rappellent toute leur vie quand le papa ou la maman les accompagne à l'école, on parle avec eux et tout. Donc, c'est dommage, mais on a un petit peu tout faux de ce côté-là, oui.
Oui, et puis alors, je vois que le tout faux, il va jusqu'à l'espérance de vie en bonne santé dont on parlait tout à l'heure, parce que dans votre conclusion en Sénat, vous disiez que finalement, la Suède a une espérance de vie en bonne santé de 71 ans, alors que la France, on n'est qu'à 62 ans.
Oui, absolument. Ça, c'est amusant parce que les médias sont quand même extraordinaires. Elles arrivent à nous faire dire ce qu'ils ont envie de dire. Ça, je le savais déjà aussi. Mais quand ils vous disent que l'espérance de vie augmente de 3 mois par an, alors ça ne va pas être le cas cette année. Hein. Il va y avoir une petite baisse avec la Covid, malheureusement. Mais ils oublient de dire que c'est les 3 mois gagnés, c'est en fauteuil roulant, comme je le disais tout à l'heure. Ce n'est pas les 3 mois où je peux faire tout ce que je veux. Parce qu'en fait, en France, l'espérance de vie en bonne santé, elle est en moyenne de 62 ans, à peu près 64 ans chez les femmes, 61 ans chez les hommes. Et ça, ça fait depuis 2012.
D'accord.
Ça n'a pas changé. Donc, l'espérance de vie en bonne santé n'augmente pas. Et enfin, je terminerai sur ce point-là, parce que c'est un chiffre qui est assez atterrant, c'est que nous sommes à 51% d'adultes en France qui sont en surpoids. C'est-à-dire que la norme, c'est d'être en surpoids, puisque la majorité des gens sont en surpoids. Les gens qui ne sont pas en surpoids ne sont pas normaux, puisqu'ils sont minoritaire. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Français ou une Française sur deux sont en surpoids.
D'accord. Mais moi, en fait, ça veut dire que je suis devenu anormal parce que j'étais en surpoids il y a... Ouais, j'étais même dans les catégories obèses hein, il y a 5-6 ans de ça. Alors, pour ça que tout le parcours dont vous parlez, de marcher, faire du sport, etc. Et mon médecin qui m'a dit, bon, faites pas trop de sport quand même, elle a constaté un truc sur mon cœur. Et le cardiologue, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais elle m'a dit maintenant, quand j'y vais, elle me dit, oh là là, votre cœur, il est tout calme.
Voilà, ben oui, c'est vrai. Non, mais ce que vous dites, c'est formidable parce que c'est un message pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas encore sportifs, mais qui vont le devenir après nous avoir entendu, ou qui vont faire de l'activité physique. Ça prouve que c'est toujours possible. C'est toujours possible. J'ai des patients, moi je peux vous parler, on pourrait parler de patients ou patientes qui ont eu des cancers, qui ont fait faire de l'activité physique après, juste pour se rappeler quand même que l'activité physique, c'est le seul traitement de la fatigue des patients qui sont traités pour cancer. Les patients se plaignent d'être épuisés par les chimiothérapies, etc., radiothérapies. Et la seule chose qui les calme, la seule chose qui les rassure, c'est l'activité physique. Tout le reste ne fait qu'aggraver. Moi, c'est ce que je dis à mes patients. Je leur dis, si vraiment vous arrivez à me convaincre que de rester 3 heures devant ma télévision, ça me repose, moi, je ne vous crois pas. Vous êtes aussi fatigué après qu'avant les 3 heures de télévision. Alors que si vous allez marcher 10 minutes, c'est une patiente qui me l'a très bien dit. Elle m'a dit, moi, quand je bouge, je suis fatigué, mais c'est une bonne fatigue, alors que ma chimiothérapie, c'est une mauvaise fatigue. Et elle avait tout compris, tout compris. Donc, c'est ce que vous dites. Je rebouge, je redécouvre mon corps, je le remets en route. Et tout d'un coup, je me dis, tiens, alors au début, on se dit, tiens, j'ai des muscles là, je ne le savais pas, parce que ça fait tellement longtemps qu'on ne les a pas utilisés, qu'on a un petit peu mal. Mais c'est ça qui est formidable. Et surtout, ça, on peut toujours le faire, toujours arriver à progresser.
Alors, ça m'intéresse cette notion de progrès quand même, parce que moi, en reprenant le sport à 38 ou 39 ans, j'ai l'impression quand même que le progrès, il est quand même compliqué à partir d'un certain âge.
Ah, il est plus dur, oui. C'est plus difficile. Ça, c'est comme quand j'explique à mes patients et mes patientes que ce n'est pas normal de prendre 1 kilo par an quand on vieillit. Ça, c'est la bonne excuse. Mais c'est normal, il vieillit. Non, c'est les épouses qui me disent ça de leur mari qui sont en surpoids. Hein, parce que...
Je l'ai entendu dans la famille.
Non, mais pour bien vous faire rire, c'est amusant. Dans les consultations, quand je vois les dames, jamais les maris veulent assister à la consultation. Par contre, quand les messieurs consultent, leur épouse me demande toujours si elles peuvent participer, assister. Et c'est là qu'elles me disent, mais c'est normal à son âge. Et je leur dis non, Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en vieillissant, c'est plus dur de perdre du poids. Parce que quand on est au repos, quand on vieillit, par exemple, eh bien, on consomme moins d'oxygène que quand on est plus jeune. Donc, déjà, on accumule plus facilement la graisse, malheureusement. Et à perdre, c'est un petit peu plus difficile. J'en suis un vivant exemple. C'est pour ça que d'abord, je ne surveille jamais mon poids. Moi, je surveille ma ceinture. Quand j'ai du mal à serrer mon pantalon, je me dis, François, il faut mettre la pédale douce sur ce que tu manges et puis bouger un petit peu plus parce que sinon, tu vas avoir un souci. Tout simplement parce que tout le monde oublie une chose, c'est que dans le poids, il y a le muscle et la graisse, et que de bouger ne me fait pas forcément beaucoup maigrir au début, parce que je remplace de la graisse par du muscle. Et ça, je ne le vois qu'une façon, si j'arrive à serrer mon pantalon, à fermer, à gagner un trou à ma ceinture de pantalon.
Les gens qui écoutent ça quand même, alors bon, nous on a une audience qui bouge un peu, mais il y a plein de gens qui aimeraient faire bouger leur entourage, etc. On leur dit de quoi? De les faire commencer par marcher un peu plus vite que d'habitude? Comment on les fait commencer?
Oui, moi, c'est ce que je leur dis. Alors, moi, je leur dis, de toute façon, le challenge qu'on va faire ensemble, qu'on va prendre ensemble, c'est de faire quelque chose qui vous plaise assez pour que vous continuiez toute votre vie. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de vous dire, monsieur ou madame, c'est qu'il va falloir que toute votre vie, vous continuiez à bouger. C'est comme si vous prenez un médicament tous les matins. L'activité physique, ça marche. Les effets, c'est à peu près 24 à 36 heures. Donc, c'est pour ça qu'on recommande généralement de ne pas passer plus de 2 jours sans bouger un peu. Je ne parle pas de sport, sans marcher. Même quand je suis malade, c'est très bon pour moi d'aller marcher 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. C'est mieux que de ne rien faire de toute façon. Je remets en route tout mon organisme. Donc, on commence, comme vous l'avez dit, très progressivement. Et puis, petit à petit, je vais augmenter. Donc, ce que je leur dis, c'est ce que je vais vous proposer au début, ça va vous permettre ensuite de faire ce que vous voulez. Ce que vous aimez, parce que si vous voulez le faire toute votre vie, il faut que vous l'aimiez, c'est-à-dire un, que vous ayez envie, donc le désir, et deux, vous ayez le plaisir. Ça vous fasse plaisir de retrouver vos copains, vos copines, etc. Et toutes ces choses-là que vous pouvez faire ensemble. Donc on recommence très progressivement, mais au début, il faut se refaire la santé, comme on dit, et une fois qu'elle est faite, je pourrais faire. Mais on peut tout faire aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je propose l'escrime, le tennis, le foot. Le football a développé le football en marchant. J'ai des tas de personnes qui n'aiment que le foot, mais je leur dis c'est très bien. D'abord, vous allez vous refaire une petite santé, et après, vous allez faire du foot en marchant. Et vous verrez, et ça marche très bien le foot en marchant.
Est-ce qu'il y a quand même des sports à limite qu'il faudrait éviter?
Alors, si je suis en bonne santé, j'en connais pas. Si je suis en fort surpoids, on ne va pas partir sur la bonne santé, on ne va pas commencer par tous les sports portés, ce n'est peut-être pas le meilleur moyen de commencer à faire du jogging ou du footing parce que je risque au niveau des articulations, sauf si je commence assez jeune, mais au bout une certaine ancienneté de surpoids, ce n'est sûrement pas la meilleure façon. Il vaut mieux prendre des sports portés, type natation, éventuellement vélo ou d'autres petits types d'activités physiques, mais sûrement pas de la zumba, de la randonnée ou de la marche dans des terrains très escarpés. Après, oui, il y a des pathologies. Alors moi, ce n'est pas tellement les sports que je contre-indique, c'est le niveau d'intensité, c'est-à-dire que ou la durée. Pourquoi? Parce que quand je fais des exercices très intenses ou très longs, je vais mettre en jeu à un moment certaines hormones que tout le monde connaît, que pour ceux qui font du sport, c'est l'adrénaline surtout, hein, l'adrénaline. Alors l'adrénaline, c'est une super hormone pour me permettre de performer, mais c'est aussi une super hormone pour que mon cœur déraille un petit peu. Donc la personne qui a des problèmes cardiaques, je vais plutôt lui dire, bah, écoutez, vous pouvez faire de l'activité, je vous recommande, je vous prescris de l'activité physique, mais vous restez au niveau d'essoufflement dont on a parlé tout à l'heure, activité physique modérée, et vous ne dépassez pas des durées d'environ 45 minutes à 1 h 15 par séance. Voilà.
D'accord. Alors, j'avais une question aux coureurs que vous êtes, parce qu'on a dit deux marathons des sables, notamment. Quelqu'un qui prendrait le sport un peu tard, comme ça, est-ce que ce genre de course, c'est accessible finalement relativement facilement ou pas?
Alors, c'est accessible relativement facilement. C'est très difficile à dire. Ça dépend qui peut. Mais tout le monde peut faire. Tout le monde s'extasie sur un marathon. Ici, on court un marathon. Aujourd'hui, vous savez, vous qui faites aussi du sport, quand vous rentrez le dimanche, que vous avez des amis qui arrivent ou de la famille et qui vous voient revenir un petit peu avec de la sueur et vous lui dites, j'ai fait 12 ou 15 km, ils vous regardent comme si vous étiez un surhomme Superman. Non! Non, c'est normal. C'est quand on est entraîné, c'est rien. 10-12 km d'abord, ça dépend quelle allure on a fait déjà pour commencer. Hein. Et puis, donc c'est possible. Et ça, tout le monde peut le faire. Après, c'est pas du jour au lendemain. Bien sûr, il faut commencer petit, se fixer des petits objectifs et puis toujours faire en sorte de garder un bon souvenir de la séance qu'on a fait. Le no pain, no gain, hein, j'ai pas mal, ça sert à rien, ça c'est pour certains. Et encore, ils ont tort parce que c'est pas formellement prouvé sur le plan physiologique. Bien sûr, de temps en temps, il faut se faire mal quand on veut faire performer. Et moi, je ne parle pas de performance, mais je crois que tout le monde, franchement, je crois que tout le monde peut faire un marathon. Je ne parle pas de chronomètre dedans. Après, certains vont le faire en marchant. Vous avez parlé du marathon des sables, il y a les gens qui le font en marchant, hein, le marathon des sables. Et ils le finissent. Hein. Donc, et je peux vous assurer que je me rappelle d'une fois, un des deux que j'ai fait, où il y avait une dame qui était en très très fort surpoids et elle a fini. Hein. Elle a fini, elle passait beaucoup plus de temps que nous sur la piste, hein, donc c'était sûrement plus dur pour elle que pour nous. Et pourtant, elle l'a fait. Donc, je ne dis pas que tout le monde doit faire le marathon des sables, ça n'a aucun intérêt de faire le marathon des sables si on n'a pas envie de le faire. Voilà, hein. C'est très clair, c'est pour soi, c'est un challenge qu'on se fixe personnel, qui vaut ce qui vaut, mais on peut très bien vivre sans le marathon des sables, on peut même très bien vivre sans faire de marathon. Hein. J'ai pas, je pense que ce n'est pas un objectif. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense que tout le monde peut. Tout le monde peut. Moi, ce que je vois simplement, j'en reviens à ce que je vous disais, la qualité de vie. C'est tellement formidable de pouvoir faire des choses avec des amis sans se dire, ben, je suis à la traîne, ils ont 10 ans de moins que moi. Ah oui, si j'avais 10 ans de moins, etc. Non. Si on s'entretient, on peut faire avec les gens toujours quelque chose. C'est très important. Je pense que c'est même majeur comme plaisir.
Alors, je vais finir sur un petit mot sur partie par rapport à la nutrition. C'est à quel point la partie nutrition, alimentation multiplie ses effets du mouvement, ses effets de l'habitude de rebouger, etc. C'est, j'imagine, c'est un multiplicateur tout ça en fait.
Oui, vous avez entièrement raison. Pour moi, on ne conçoit pas l'activité physique et ou l'activité physique et sportive avec une mauvaise nutrition. Ne faire de l'activité physique que dans le but de limiter sa prise de poids, d'abord, ce n'est pas très rentable parce qu'il faut beaucoup, 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 beaucoup bouger. Hein. Donc, ce n'est pas le top. Donc, il faut toujours associer un petit peu. Donc, je dirais un petit peu ce que les sages, entre guillemets, disaient, ce qui ne veut pas dire que je suis un sage puisque je ne fais que copier et répéter ce qu'il dit. Je suis peut-être un singe, mais pas un sage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est bouger en fonction de mes capacités et essayer de sortir de table en ayant un tout petit peu faim à chaque repas. Voilà. Et je crois que comme ça, on arrive à l'équilibre qui me permet d'avoir une vie saine le plus longtemps possible.
Eh ben, on va finir sur ces belles paroles. Je vous remercie beaucoup pour le temps passé, mais quand même, on a une petite tradition dans le podcast. On demande toujours un petit peu si vous avez une petite recette préférée, quelque chose comme ça. Alors, il y a la recette du quotidien, mais aussi, parce que c'est une grande question qu'on se pose, qu'est-ce qu'on mange pendant un marathon des sables?
Pendant le marathon des sables, ce n'est pas le top parce que vous savez, on porte notre maison sur le dos. C'est-à-dire que le sac, dedans, on a tout sauf l'eau. L'eau nous est fournie par l'organisation. Et heureusement, parce que comme on est entre 3 à 5 litres d'eau par jour, vous imaginez le poids qu'on aurait au départ. Il y a quand même 7 étapes. Donc, c'est quand même assez long. Donc, qu'est-ce qu'on mange? On mange des produits lyophilisés. Alors, moi, je me rappelle, hein, sans vous raconter ma vie, j'avais le jour de la grande étape qui fait entre 80 et 90 km. Et on finit de nuit. Par contre, le lendemain, on a repos, hein, donc c'est le top. Et donc, j'avais amené, parce que moi, j'adore, le matin, j'ai toujours soit noix, soit amandes à mon petit déjeuner, toujours. Et donc, je m'étais amené deux petits sachets, un petit sachet de cacahuètes bien salées, parce que c'était bon, et puis un petit sachet de noix. Et ça c'était mon plaisir le jour du repos après avoir fait mes 90 km. Et j'y pensais, je vous promets que c'est vrai. À la fin des 90 km, surtout que c'était une grande ligne droite, il y a un laser qui vous montre la route là où ça va. Mais le laser, vous le voyez depuis 30 bornes et il est toujours aussi loin, comme au marathon du Mont-Saint-Michel, où vous voyez le Mont-Saint-Michel depuis le départ et vous vous dites, mais j'arrive pas, je ne m'en rapproche pas, ben, c'est pareil. Et donc j'ai pensé à ça et je me suis régalé avec des noix et des noisettes et des cacahuètes salées. Voilà.
Eh ben, c'est très bien. Alors, si j'ai quand même une dernière question parce que je l'ai zappé. Vous trouvez pas quand même, on a parlé de plein de sujets autour du sport, du manque de mouvement, etc. et le manque de, finalement, de prise de conscience des politiques. Bon, c'est pas qu'on est en train de louper quelque chose avec les Jeux Olympiques dans 3 ans?
Alors, j'espère que l'héritage va marcher. Hein. Il y a de gros efforts de fait quand même. Hein. Gros efforts de fait. En fait, il faut quand même qu'on se rende compte qu'on s'attaque à une montagne. Hein. La France n'est pas un pays sportif. La France n'a pas de culture sportive. Tout à l'heure, vous parliez de la Suède. Vous allez dans les pays européens. Moi, j'ai vu, quand j'avais été voir les championnats du monde d'Helsinki, ça fait longtemps, ça devait être 83 ou 85, je ne sais plus, 83, je crois, où j'étais là-bas en tant que spectateur d'athlétisme, les championnats du monde d'athlétisme. je me baladais dans les parcs. Vous aviez des terrains de volley avec le filet. Vous voyez la dame arriver avec son caddie chargé à ras bord, qui laissait le caddie, qui jouait pendant 10 minutes, un quart d'heure avec d'autres femmes au volley. Hop, on passait le ballon, on prenait le caddie. Vous ne verrez jamais ça en France. Jamais. Donc là, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, il nous reste 3 ans, bah, c'est ça. Faire changer. Et surtout, dernier message que je pourrais vous passer quand même, c'est rappeler aux gens, arrêtez de dire aux gens, c'est bien, tu fais de l'activité physique. Il faut leur dire, tu ne fais pas d'activité physique. Mais tu ne te rends pas compte combien c'est dangereux. Je ne dirai jamais à quelqu'un qui ne fume pas, c'est bien, tu ne fumes pas. Je dis aux fumeurs, mais vous ne vous rendez pas compte du risque que vous prenez. Ben là, c'est pareil. C'est très dangereux de ne pas bouger, voilà, pour sa santé.
Et rappelons-le, hein, qu'un médecin peut prédire de faire du sport. Enfin, prédire, pas prédire, peut prescrire du sport.
Il doit prescrire du sport.
Et ben voilà, allez, on prescrit une grande tournée de sport à tout le monde. Merci beaucoup en tout cas, François Merci. Carré, pour toute cette, pour cette discussion qui était passionnante. Si on veut avoir plus d'informations, est-ce que vous avez un site, une page, des liens, des choses à recommander pour en savoir plus?
Non, j'ai qu'un site LinkedIn, mais sur lequel je communique pas beaucoup, mais ce que je fais, j'ai pas de site, je suis pas trop comme ça. Par contre, mon adresse mail est interdite à personne, donc il suffit d'aller sur Internet, je suppose, puisqu'on le trouve. Autrement, c'est françois-sancedi.car, CA2RE@univ-rennes1.fr. Voilà, j'essaye de répondre, je réponds pas toujours rapidement, mais voilà. Non, j'ai pas de site, je suis pas bon là-dedans.
Ouais, mais en tout cas, on vous trouve sur plein d'informations parce que quand on cherche un peu les interventions, je mettrai des liens. Il y a vraiment des choses passionnantes, hein, sur tous ces sujets-là. Et c'est vrai, sur les messages que vous avez fait passer, que vous avez parlé dans cet épisode-là, ben, on les retrouve aussi. Donc, je mettrai des liens dans les deux épisodes. En tout cas, merci beaucoup, hein, c'était passionnant. Et, nous, on va se retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant par exemple sur Instagram, @podcastsportetnutrition, et en laissant votre avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.